France Culture.
France Culture. La Fabrique de l'Information, François Saltiel.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Fabrique de l'Information, le rendez-vous de France Culture consacré au décryptage du travail journalistique et à l'analyse des récits médiatiques. France Culture, une des antennes d'un service public de l'audiovisuel plus que jamais menacé, critiqué et remis en question par une partie de l'échiquier politique. La semaine dernière, une commission d'enquête parlementaire s'est ouverte à l'initiative de l'UDR, partie en quête de l'union des droites et de l'extrême droite. Jusqu'en avril prochain, des entretiens seront menés pour éclairer la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Une commission provoquée par la dite affaire des éditorialistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, suite à la divulgation d'une vidéo volée d'un café entre les journalistes et des cadres du Parti Socialiste. Je vous renvoie à notre précédente Fabrique de l'Information consacrée à cette thématique. Depuis, les attaques se sont intensifiées entre les médias du groupe Bolloré, CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, et les responsables de France Télévisions et Radio France. Des rapports extérieurs venus d'un côté de l'organisation Reporters sans frontières et de l'Institut Thomas More pointe le manque de pluralisme des uns et des autres. Il sera intéressant d'en saisir la méthodologie. L'occasion également de faire le point sur ces différentes notions. Pluralisme, impartialité, neutralité, de mieux comprendre le rôle de l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, et de distinguer ce qui relève de la critique constructive et étayée du combat idéologique. En un mot, à quoi sert le service public de l'audiovisuel? Que lui reproche-t-on en France comme ailleurs en Europe? Trois invités pour en parler. Nathalie Sonnac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Panthéon-Assas, spécialiste de l'économie des médias et ancienne membre du CSA, c'est-à-dire anciennement l'ARCOM, ça sera précieux pour comprendre le fonctionnement de cette autorité. Et vous êtes également l'auteur du livre « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique » paru chez Odile Jacob. À vos côtés, Thibaut Brutin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Reporters sans frontières, organisation qui vient de publier un rapport intitulé « Pluralisme en France sur CNews, le grand contournement ». Vous pourrez donc revenir sur les outils employés pour mener ce rapport et revenir sur la polémique que celui-ci a provoquée. Alexandre Devecchio est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef des pages Débats idées du Figaro et du Figaro Magazine, hebdomadaire, qui vient de publier, lui, une étude de l'Institut Thomas More qui pointe l'orientation politique des matinales de Radio France. Enfin, comme ce sujet concerne toute l'Europe, nous pourrons compter sur le regard de Mélanie Chenoir, journaliste chez Courrier International, notre partenaire qui veille, sélectionne et traduit le meilleur de la presse étrangère. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Avec un sujet, une chronique, avec un tour d'horizon de plusieurs pays, lesquels ?
Oui, alors en particulier le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse.
Voilà le programme complet de l'épisode 14 de La Fabrique de l'Information. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à nous suivre en direct ou en podcast sur l'application Radio France. C'est parti.
Est-ce qu'il est de gauche, le service public audiovisuel?
Est-ce que France Inter est une radio de gauche?
De gauche, oui, il doit y avoir une sensibilité plutôt de gauche que de droite, mais bon. c'est assez mou, je trouve, c'est assez mollassant.
Le privé, ça vous dérange pas?
Non, non.
D'accord.
J'ai même un ami qui a déjà franchi le pas l'an dernier.
Vous auriez dû l'écouter.
Les audiences sont bonnes, oui, mais chez qui? Plus les jeunes, plus les classes populaires. Ça devient un club, c'est CSP+. Et plus âgés. C'est une réalité.
Et puis, surtout, c'est faux. 1 million d'auditeurs par jour au moins de 34 ans.
Je crois que c'est Complément d'enquête qui prépare un magazine sur CNews.
Pourquoi vous ne leur parlez pas, Pascal Praud ?
Mais parce que je peux écrire leur reportage. Ils vont sortir une image avec Claire Nouvian il y a 6 ans. Ils vont sortir une autre image avec Caroline Mécari.
On supprimera des impôts qui restent. La redevance télé en fait partie.
Comment vous mettez le service public au pas ? Vous lui serrez les budgets, vous lui enlevez 20 millions par-ci, 40 millions par-là ?
Tout a commencé le 5 septembre avec cette séquence entre les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand en discussion avec deux cadres du Parti Socialiste dans un café parisien.
Aujourd'hui, une audition qui était très attendue, celle de Martin Hajdari, président de l'ARCOM. Il est auditionné par la commission d'enquête qui planche sur la question de la neutralité du service public. Cette commission a été créée à la demande d'Éric Ciotti, allié du Rassemblement National.
Et nous en sommes là aujourd'hui avec l'ouverture de cette commission d'enquête la semaine dernière qui va donc se prolonger jusqu'en avril prochain. Nathalie Sonnac, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette commission ?
Oh, je ne sais pas, parce qu'elle est terriblement politiquement installée, contextualisée. Ça vient d'une droite conservatrice, ça vient aussi des propos qui sont tenus actuellement. Je trouve ça assez grave dans la mesure où la situation est extrêmement importante d'aujourd'hui de tenter d'avoir un débat qui soit plus apaisé dans l'espace public, dans son ensemble, que les médias, qu'ils soient du service public évidemment, et on aura certainement l'occasion d'y revenir bien évidemment, mais également du service privé, sont terriblement tensés par l'arrivée des réseaux sociaux, un vieillissement des audiences, une baisse du nombre de téléspectateurs, et puis une fuite en avant des recettes publicitaires qui partent en fait sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques, dès lors des modèles qui sont terriblement attaqués, abîmés. Or, on n'a jamais eu autant besoin d'un climat apaisé et des médias qui demeurent des vecteurs de démocratie.
Donc pour vous, cette commission d'enquête, elle n'est pas pertinente ou légitime parce qu'elle va diviser plutôt qu'éclairer sur une situation qui pourrait peut-être demander à l'être ?
Je pense que, évidemment, de toute manière, comme tous les secteurs, il est important de pouvoir critiquer, de remettre sur le tapis ce qui ne va pas ou ce qui ne semble pas aller. Aujourd'hui, la question du pluralisme est interrogée, la question de l'impartialité, la question de neutralité. Évidemment, ces questions doivent être posées. Et d'ailleurs, c'est de l'argent public. Donc, il est normal que nous ayons tous, citoyens, un regard et un devoir qu'il y ait de transparence de la part de ces entreprises. Mais malheureusement, de la façon dont c'est posé, de la façon, le contexte dans lequel on se situe et qui s'en est emparé de ces questions, fait que ça tenterait d'un point de vue politique, alors même que le contexte international a besoin de stabiliser, d'être stabilisé. Et puis, effectivement, c'est politiquement, c'est toujours extrêmement dangereux et ça semble d'être plutôt une poudrière qu'autre chose.
Thibaut Brutin, pour aller dans les prolongements de ce que vient de dire Nathalie Sonnac, pour vous, il s'agit d'une démarche constructive ou d'un coup de communication politique ?
Il y a de fortes chances que ce soit en quelque sorte le match retour de la commission TNT qui avait beaucoup agité, je crois, l'année dernière, où il y avait eu des personnalités télévisuelles très importantes. Hein, je pense à M. Hanouna, M. Barthès qui étaient venus. Ça avait été aussi une belle foire d'empoigne. Heureusement, un grand nombre de forces politiques qui étaient membres de cette commission avaient réussi à trouver un accord sur une majorité de mesures, et nous l'avions salué à Reporters sans frontières. Je trouve qu'il est sain d'avoir un débat démocratique sur la télévision, sur sa régulation, sur les attendus aussi citoyens, et qui de mieux que l'Assemblée nationale pour le faire. En revanche, je trouve qu'il faut prendre garde à ce que les termes ne soient pas trop biaisés, je dirais, notamment cette notion de neutralité du service public qui est issue, à ma connaissance, du droit commun du service public, est assez peu applicable au champ médiatique. La notion d'impartialité, je trouvais beaucoup plus intéressante, et celle de pluralisme interne encore plus.
Alors, on va justement définir toutes ces notions dans un instant avec Nathalie Sonnac, mais une réaction peut-être, Alexandre Devecchio, par rapport à la pertinence de cette commission. Vous en attendez quelque chose ? Elle vous réjouit ? Vous vous dites qu'il fallait éclairer
Je pense que oui, ça pourra éclairer les téléspectateurs. Je crois que c'est le rôle de la représentation nationale, et je m'étonne un peu qu'on pointe une partie de la représentation nationale. Elle a toute légitimité. On est dans un système pluraliste. Justement, il me semble que les députés de la droite conservatrice ou du RN ou de l'UDR ont été élus comme les autres députés et doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Et donc, ça me paraît être effectivement une démarche tout à fait légitime. Ça a été rappelé. Il y a eu d'autres commissions d'enquête sur d'autres chaînes de télévision. Elles s'y sont pliées et ça a pu nourrir le débat.
Alors, cette commission d'enquête, elle va surtout s'intéresser à la question du pluralisme. Alors, on a cité avec Thibaut Brutin la neutralité, l'impartialité, le pluralisme. C'est pas toujours simple de comprendre la différence de ces notions-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Nathalie Sonnac, pour bien comprendre l'obligation, peut-être, de pluralisme qui semble la plus concrète et objectivable ?
Peut-être c'est intéressant de mieux la comprendre, de passer par le secteur de la presse écrite. Il s'avère que, pour la presse écrite, les journaux d'opinion existent, ont le droit d'exister. Et c'est une bonne chose, et ce qui fait que chacun des citoyens, des consommateurs, lorsqu'il va dans son kiosque, il y en a encore qui y vont, dans la presse papier, peuvent avoir en face d'eux de Valeurs Actuelles, en passant par l'Humanité, Le Figaro, Libération, et l'ensemble des opinions sont représentées ou sont présentes ou peuvent être présentes. Ça, c'est garanti par une loi qui a été actualisée récemment, mais qu'importe, ça a été garanti par une loi qui date du 2 avril 1947 et qui a l'obligation de cette distribution de l'ensemble des titre de presse, quel que soit le propriétaire. Lorsque je tente de transposer et ce pluralisme externe, je le transpose aux chaînes de télévision et que je suis dans le cadre de la distribution en TNT, je tombe sur finalement la pierre d'achoppement qui est celle de rareté des fréquences. Donc les chaînes de la TNT, ce sont des chaînes qui ont une allocation de fréquences issue du domaine public, et c'est là que l'ARCOM intervient, donc le régulateur de l'audiovisuel, qui va signer une convention entre celui qui est détenteur de cette chaîne pour lui imposer un certain nombre de missions. des missions qui sont à la fois pour les chaînes privées, mais également pour les chaînes publiques. Mais vous comprendrez bien qu'évidemment, les 27, les 28 chaînes de la TNT ne sont pas représentatives, surtout que celles-ci signent des conventions pour une dizaine d'années, enfin 10 ans plus 5 ans après, ça ne peut pas être représentatif de l'opinion, la diversité des opinions politiques.
Alors pour bien comprendre, dans la presse écrite, chacun est libre, comme il y a, de pouvoir créer son journal. Alors il faut avoir bien sûr des numéros de commission paritaire, etc. Mais donc il y a une facilité de pouvoir créer des titres. Donc la presse d'opinion existe et elle est autorisée. Et vous nous dites qu'en télévision, les fréquences étant si rares, il n'y a pas de il y a une obligation de pluralisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y avoir de chaînes délibérément d'opinion.
Exactement, c'est même strictement interdit parce que chacun au sein des chaînes se doit de garantir cette diversité d'opinion et ce pluralisme. L'idée est tout simplement, lorsque un téléspectateur se trouve devant son écran, eh bien, lorsqu'il zappe de chaîne en chaîne, il doit pouvoir entendre des opinions, qu'elles soient de tous bords politiques.
Et donc, encore une fois, cette obligation de pluralisme, elle vaut pour les chaînes de services publics comme les chaînes privées, c'est-à-dire qu'elle vaut pour toutes les antennes, toutes les fréquences.
C'est la raison pour laquelle, je me permets juste d'ajouter, sur les chaînes de services privés, finalement, elles ont elles aussi des missions de services publics, parce que ça participe de l'intérêt général de pouvoir accéder à cet ensemble de diversité d'opinions. Et c'est ça, cette distinguo fort entre le pluralisme, qui est aujourd'hui très discuté, parce que évidemment le câble, le satellite, puis la DSL, fait que j'ai une myriade de chaînes de télévision. Et là, pour le coup, il n'y a pas du tout cette tenue d'obligation de par la loi de 86.
Alors, elle est très discutée, cette obligation de pluralisme, aussi chez Reporters sans frontières, puisque Thibaut Brutin, vous avez récemment publié une analyse comparative sur les 4 chaînes d'information continue qui constituent notre paysage audiovisuel, et vous titrez CNews le grand contournement, en pointant les manquements de pluralisme, d'obligation de pluralisme auxquels CNews doit répondre.
Oui, alors c'est pas nouveau hein, tout ça. Le mandat de Reporters sans frontières, et je crois que les concitoyens ne voudraient pas soutenir un journalisme qui ne soit pas honnête, indépendant et pluraliste. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons intégré dans notre logiciel de réflexion depuis 2021. Et toute cette histoire, en fait, elle remonte à 2021, où Reporters sans frontières a déposé une saisine auprès de l'ARCOM sur ce qui nous semblait être une appréciation restrictive du pluralisme. Je rappelle que la loi de 1986, et moi j'aime bien lire les textes, elle parle de diversité de courants de pensée et d'opinion. C'est beau quand même comme expression. Et à la fin, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu des petits contes d'apothicaires sur le temps de parole des hommes politiques. Et ça nous déplaisait. C'est pour ça que, avec une compréhension qui est plus juste, je crois, de la façon dont fonctionne le sens sur les chaînes d'information, a fortiori les chaînes d'information en continu qui ont émergé dans les années 2010-2020, eh bien, on a trouvé qu'il était intéressant d'aller challenger ça au Conseil d'État. Le Conseil d'État nous a donné droit. Et le Conseil d'État a invité l'ARCOM à préciser son appréciation du pluralisme. Son appréciation du pluralisme, c'est à la fois de regarder qui parle, quels sont les intervenants à l'antenne, de quoi on parle et comment on en parle. Je pense que c'est une vision assez saine, assez riche, qui permet d'éviter de se retrouver à coller des bouts de discours ici ou là pour avoir une équité du temps de parole. Et l'appréciation, elle est aussi fondée sur, non pas une idée in abstracto, mais sur l'idée qu'il faut sanctionner des déséquilibres répétés, structurels, intentionnels, qui s'observent à l'antenne. En d'autres termes, nous, on est partisans d'une régulation de l'audiovisuel qui aille dans le sens, non pas des incidents à l'antenne, mais d'essayer de comprendre plus généralement, en lâchant la grappe, si vous me permettez, aux éditeurs, de comprendre plus généralement quelles sont les trajectoires, qu'est-ce qui est mis en place par les chaînes. Cette décision, elle date de février 2024. On a constaté qu'il ne s'était pas véritablement passé d'éléments qui nous laissaient penser qu'il y avait un contrôle accru de la part de l'ARCOM pour faire respecter cette nouvelle interprétation du pluralisme. Et donc, c'est pour ça que nous avons, en juin, annoncé que nous avions un outil qui tournait sur les chaînes d'information continue pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Et puis, nous avons publié donc une étude il y a quelques semaines.
Voilà, on va revenir justement sur les contours de cette étude. Je me permets peut-être de lire la définition du pluralisme interne. Le pluralisme interne imposé par la loi n'interdit pas aux médias d'afficher une tendance politique. Il s'oppose seulement à ce qu'ils se muent en médias de propagande. La différence des uns et des autres n'étant pas qu'une différence de degré, mais aussi de nature, car un média de propagande qui s'est mis au service d'un courant de pensée tend inévitablement à tordre la vérité et à méconnaître l'exigence d'honnêteté de l'information. Donc est-ce que vous, pour aller vite et avant de donner la parole à Alexandre Devecchio, vous considérez que CNews est une chaîne d'information ou une chaîne d'opinion, puisque ça, on est longtemps tourné autour de cette question-là.
Bon, en tout cas, nous, on considère que ça fait longtemps que l'on observe, donc depuis 2021, le fait qu'à la fois, il y a un très petit nombre de gens qui est invité à parler, en tout cas en termes de représentation de médias à l'antenne ou d'invités politiques, il y a un déséquilibre, qu'il y a un nombre de sujets qui est également assez limité. Par ailleurs, quand il y a des sujets qui portent à controverse, on a travaillé, nous, notamment sur le procès de Marine Le Pen, il y a un traitement quasiment univoque. Donc, nous disons qu'il ne faut pas prendre chacun de ces critères individuellement, ça n'a pas beaucoup de sens, mais pour constituer une chaîne d'information en continu, ou en tout cas pour la définir, il faut regarder la convergence de ces trois faisceaux.
Vous n'avez pas répondu totalement à la question opinion ou information.
Je pense qu'on est largement en train d'aller vers une chaîne d'opinion, oui.
Alexandre Devecchio, est-ce que vous considérez, vous aussi, que CNews est une chaîne d'opinion ? Si tel est le cas, est-ce que ça vous dérange ?
Alors, j'aimerais malgré tout répondre à ce qui a été dit, notamment sur la décision et l'interprétation du Conseil d'État et la volonté soudaine de Reporters sans frontières d'élargir, si vous voulez, la fenêtre du pluralisme, parce qu'effectivement, jusqu'ici, il y avait des règles comptables sur les intervenants politiques. Il me semble que c'est totalement anachronique et que ça répond, si vous voulez, à un phénomène de panique du système médiatique qui était en possession de... où il y avait une forme d'hégémonie du centre-gauche, notamment, ou de la gauche dans le système médiatique. Il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent.
Le système médiatique, c'est tout le système médiatique.
Tout le système médiatique était de gauche ou de centre-gauche. Peut-être pas tout le système, mais en tout cas, il y avait une majorité. On voit l'apparition d'un nouvel acteur et on veut tout d'un coup remettre les... changer les règles du jeu. C'est un peu surprenant et c'est d'autant plus surprenant que les règles du jeu, moi, je les aurais approuvées d'un pluralisme interne aux chaînes de télévision. Je les aurais approuvées dans les 40 dernières années. Puisque je rappelle toujours, je suis né en 86, il devait y avoir, je ne sais pas, même pas s'il y avait 6 chaînes de télévision, il devait y avoir 3-4 chaînes de télévision. On expliquait d'ailleurs au moment où il y avait Canal+,
qui est là, 84.
Crypté. Et on expliquait à ce moment-là d'ailleurs que le nuage de Tchernobyl n'avait pas passé la frontière, preuve que les fake news existaient même avant les réseaux sociaux. Mais il y avait surtout, on l'a dit, 4-5 chaînes de télévision. Et donc là, ça se serait imposé effectivement des règles assez strictes de pluralisme pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, une forme de monopole de l'information.
Mais pour bien comprendre, Alexandre Devecchio. Mais juste quand vous dites...
L'information à un courant de pensée. Aujourd'hui, ça a été dit, il y a 26 chaînes de télévision, il y a les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez, je pense qu'on peut faire confiance à l'intelligence du téléspectateur et de savoir vers quelle chaîne il veut se tourner. Peut-être d'ailleurs qu'il en regarde plusieurs, comme certains parfois achètent plusieurs tournois. Donc, je trouve que le contexte a changé. Il y a un pluralisme parce qu'il y a un bouquet de chaînes très large, et ça s'impose d'autant moins, ça aurait pu s'imposer avant, parce que je trouve qu'effectivement, il y avait un monopole quasiment idéologique avant. Ça,
Alexandre Devecchio, juste sur le monopole idéologique, et après je vous laisserai reprendre la main. Vous parliez de ce moment où il n'y avait que 4 chaînes, on est quasiment de la même génération, je pense à TF1, est-ce que vous considérez que TF1 était une chaîne de centre-gauche ?
Non, il y avait des nuances.
Qui faisait une part de marché colossale.
Non, je vais être nuancé. Il y avait quand même des différences. Mais en tout cas, il y avait un spectre politique, parce qu'on parle en plus beaucoup de polarisation, mais qui était en gros entre le centre-gauche et le centre-droit. Je vais vous donner quand même un exemple pour montrer qu'il n'y avait pas hégémonie, mais il y avait une forme quand même d'homogénéité idéologique. Par exemple, quand il y a eu le débat, c'est pas au moment de ma naissance, mais c'était en 2005, c'est plus pas si vieux que ça, le débat sur le référendum européen, 90% ou 95% des éditorialistes étaient favorables au oui, la France a voté non. C'est qu'il y avait quand même un problème de pluralisme. Voilà, simplement, c'est pas la peine d'exagérer.
Le terme de monopole était
peut-être trop fort, mais il y avait une forme d'homogénéité idéologique. Et effectivement, quand il y a 4 chaînes, on peut se poser la question d'un pluralisme interne. Quand il y en a 26, à mon avis, ça n'a plus de sens. Je vous laisse répondre, mais je vais juste répondre à votre question. Allez-y. Sur chaîne d'opinion et chaîne d'information. Moi, je crois que c'est très difficile, en fait, de séparer de manière très étanche l'information de l'opinion. On sait très bien que faire de l'information, c'est hiérarchiser l'information. Il y a des choix différents. Effectivement, CNews parle beaucoup, ce qui a été reproché par le complément d'enquête, d'immigration, d'insécurité, d'identité. D'autres parleront plus d'écologie. Est-ce que ça veut dire que c'est une fabrique de fausses informations ? Non, ça reste de l'info avec une subjectivité. Donc je crois que les deux sont intimement liés. Donc de vouloir tout d'un coup séparer les deux, ça me paraît pas juste et ça me paraît surtout très très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ARCOM, si vous voulez, prend un peu ses distances avec tout ça, parce que bonjour l'usine à gaz.
Alors, on va, vous avez dit beaucoup de choses, on aura l'occasion de revenir. Non, mais vous avez posé le débat, il n'y a pas de problème. On a quasiment une heure, enfin plus ou moins 40 minutes. Nathalie Sonnac.
Oh, mais il y a tellement de choses qu'il nous a dit d'un coup que finalement, on a envie de répondre, et là, il me faudrait un boulevard.
Il faut qu'on garde du temps de parole pour tout le monde.
Voilà,
pluralisme, vous n'avez pas boulevard, mais au moins une avenue.
Allez, on va garder sur l'avenue. Panique du système médiatique, moi j'aimerais bien justement prendre un peu de recul. Je pense que la panique, elle est de façon beaucoup plus globale de l'écosystème médiatique qui est complètement en train d'exploser. On a eu une première vague avec l'arrivée des réseaux sociaux et l'emparement et la prise de, finalement, de ce que les réseaux sociaux, où tout le monde s'informe sur les réseaux sociaux. On a une deuxième vague aujourd'hui qui est celle de l'intelligence artificielle générative, où carrément vous avez 30% des Français qui s'informent aujourd'hui grâce à ces agents de conversation. Je pense que ça, c'est un premier élément qui participe de cette bascule, de cette panique, pour reprendre votre propos. Ensuite, il y a un contexte économique que vous ne pouvez pas désolidariser d'une façon générale. Le contexte économique est celui de la baisse de la redevance. D'une part, le retrait, puis une transformation de la fraction en audiovisuel public, en d'autres termes, la redevance. Ça a été beaucoup discuté. Les salariés du service public ont beaucoup craint, justement, cette chute de la redevance. Et là-dessus, il s'avère que la droite conservatrice et l'extrême droite, c'est la raison pour laquelle CNews, c'est intéressant de voir est-ce que c'est une chaîne d'opinion ou d'information, s'est quand même emparée de la question bien plus que les autres. Et quand on voit, je prends une étude, alors cette fois-ci, pas de RSF, mais de l'INA, a proposé une étude au moment de l'affaire entre guillemets Thomas Legrand et Patrick Cohen. Et à ce moment-là, cette étude met en évidence que pendant une semaine, elle a étudié l'ensemble des chaînes de télévision. Donc, à la fois, je vais jusqu'au bout, si vous me permettez, deux chaînes d'information.
J'ai beaucoup parlé.
Voilà. Des chaînes d'information continue, mais également des autres chaînes de télévision et des radios. Des radios, à la fois du service public, mais également des radios privées. La démonstration a été faite que, quantitativement parlant, CNews a parlé près de 90%, a occupé le terrain, ou en tout cas le temps d'antenne, sur cette affaire, tandis que les autres, pas simplement aux antennes du service public, mais
qui
également...
Qui étaient jugés partis,
donc qui n'ont rien dit sur ce truc-là, qui était RTL. Et là, c'est une étude de l'INA.
Mais bien sûr, ça rejoint ce que j'ai dit, les chaînes font des choix éditoriaux.
Je n'ai pas dit le contraire, mais seulement...
Je pourrais vous citer d'autres cas, je ne vais pas le faire pour être sympathique, mais où ce sont les mêmes qui sont ciblés sur d'autres chaînes. Donc, c'est la liberté éditoriale de CNews.
Mais la question n'est pas que ce soit la liberté éditoriale de CNews, parce que de la même façon, à ce moment-là, lorsque vous dites, et pourtant c'est complètement faux, de dire qu'en face, ça serait occupé par des discours ou des études sur l'écologie...
C'est un exemple.
Oui, mais votre exemple, ça fait deux fois que finalement, c'est pas tout à fait juste. Donc, si on veut être un peu sérieux
Dit qu'il pouvait l'écologie ou autre chose.
Mais donc,
on
ça signifie...
On a parlé de la taxe Zuckman, les choix éditoriaux sont différents,
Et après, je donne la parole.
Les sensibilités sont différentes et chacun peut se positionner aller vers la sensibilité qui lui convient.
Juste pour faire un petit point, pardon, Nathalie Sonnac, c'est que dans tout journal d'information et tout journaliste le sait, il y a des angles et ces angles sont évidemment le fruit, du moins, d'un angle d'attaque par rapport à un sujet. Ceci étant dit, c'est pas parce qu'on va faire des choix et un journal, c'est par quoi on ouvre et par quoi on termine, qu'il n'y a pas une exigence d'intégrité déjà de cette information, de son honnêteté.
Ça, c'est
une chose. Et la deuxième chose, c'est que l'obligation de pluralisme, telle qu'on l'a définie tout à l'heure, il ne faut pas que d'un coup une chaîne ou un média se fasse l'outil de propagande d'un seul parti de manière répétée, de manière structurelle. Or, et là on va donner la parole à Thibault Brutin, c'est ce que vous avez tenté de démontrer, du moins avec vos études, parce qu'il peut y avoir, Alexandre Devecchio, vous parliez d'exemple, mais là on est dans la perception, on a tous une perception, et ensuite on va maintenant s'intéresser à ces deux rapports Thomas More dans un instant, et le vôtre, qui essaye d'objectiver, même s'ils ont, il faut peut-être chacun être critiquable, d'objectiver la situation.
Alors, je voudrais juste répondre sur deux points. Un, je pense qu'il est important aujourd'hui, dans le moment de l'histoire de notre pays où nous sommes, d'avoir une forme d'exigence démocratique. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que, alors que la loi de 1986 est bien fichue et propose et du pluralisme externe et un pluralisme interne, il faudrait qu'on détricote ça maintenant. Je note une forme de paradoxe. C'est-à-dire que moi, je passe ma journée à être contacté par des médias qui me disent l'économie des médias s'effondre, on a du mal à subsister, etc. Le pluralisme externe n'est pas du tout garanti. Alors, ce n'est pas le moment de lâcher sur le pluralisme interne. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. il y avait la Fairness Doctrine qui permettait de traiter de sujets de société avec une forme de complexité. Ça a obligé à avoir une forme de diversité de regard. Ça a permis d'ailleurs de parler de sujets complexes, la peine de mort, la ségrégation raciale, etc. Quand Reagan arrive au pouvoir, il fait sauter ça. Et qu'est-ce qui émerge ? Il émerge des chaînes d'opinion qui polarisent à fond.
Comme Donc, Fox News, par exemple.
Comme Fox News. Et moi, je pense qu'il faut être exigeant. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir ? C'est bientôt, on vous demandera de choisir entre l'état de droit et les élections. Je veux dire, gardons, moi, je ne veux pas paraître ultra conservateur, mais gardons l'édifice que nous avons. Soyons exigeants, demandons la loi.
Il n'a jamais été appliqué, rien, vous l'avez dit lui-même. Vous-même.
Demandons la loi, rien que la loi. Je pense que c'est vraiment intéressant d'être dans ce respect de la loi, dans ses fondamentaux. Sur la question de CNews, qui est la question sur laquelle vous êtes revenu, moi, je pense qu'il faut accepter et reconnaître le changement qui est nécessaire dans les pratiques de l'information. Il y a plein d'évolutions. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que à CNews, on parle beaucoup. C'est une chaîne, d'ailleurs, de l'aveu même de Vincent Bolloré, de débat. Moi, je pense qu'il y a là, d'ailleurs, quelque chose qui est une réinvention du modèle de la chaîne d'information en continu telle qu'on a pu la connaître, par exemple, lors des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, où il y avait les journalistes qui couraient après le raid, qui étaient sur le terrain perpétuellement.
Vous voulez dire qu'il y a moins de reportages, moins d'extérieur, mais plus d'émissions de plateau, et aussi sans doute pour des raisons économiques. Car
pour des raisons économiques,
ça coûte beaucoup moins cher.
Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Est-ce que ça répond aux attentes et aux demandes de nos concitoyens qui nous demandent de l'information fiable, nous demandent...
Mais tu retiens les audiences, au moins, là-dessus, sont au rendez-vous.
Mais bien sûr.
Mais la question, est-ce que ça répond
Est-ce qu'il est normal Enfin, vous connaissez-vous un système où quand on triche, on n'arrive pas devant C'est ce que nous disons, c'est qu'il y a une forme de trahison de l'idéal du journalisme qui est très préjudiciable. Et moi, quand les gens viennent me voir, parce que RSF, alors que franchement, on n'a rien fait pour ça, on est devenu comptable de la grogne de l'ensemble de nos concitoyens à l'égard du journalisme. Et tant pis, c'est comme ça. Eh bien, ils viennent nous voir en disant j'aime pas les journalistes. On leur demande qu'est-ce qu'ils aiment pas. Ils aiment pas les réseaux sociaux. Ils aiment pas les éditorialistes en plateau qui donnent leur opinion. Ils trouvent qu'on distingue pas le principal de l'accessoire. Qu'il y a des polémiques qui durent trois jours qui servent à rien. Donc, ils nous disent qu'il y a beaucoup de blabla sur les chaînes. Enfin, c'est
Donc
pas
pour
parce
vous,
qu'un
c'est un
produit...
dévoiement de cette mission d'information qui est normalement auquel les fréquences doivent répondre. C'est un dévoiement de cette mission-là au profit des émissions d'opinion. Et la preuve en est, vous nous parlez justement de cette forme de débat et sans reportage, avec une parole décomplexée, qui serait l'incarnation justement de cette opinion dérégulée, on pourrait dire.
Absolument. Et à contrario, regardons ce que les gens aiment. Tout le monde nous dit ah ben j'aime les reporters de guerre, j'aime le journaliste d'investigation. On peut revenir à l'amour du journalisme si on remplit la promesse initiale. Et je voudrais rendre hommage à une personne qui nous a quitté récemment, Jean-Claude Guibaud, qui est une grande figure du journalisme, qui lui distinguait profondément le journalistique et le médiatique. Je trouve que c'est une distinction importante à garder en mémoire aujourd'hui. Et je sais que nos concitoyens et les messages qu'on reçoit d'eux sont vraiment très clairs là-dessus. Ils sont fiers de revendiquer ce journalisme comme étant un journaliste d'intérêt général.
Alexandre Devecchio.
Non, mais loin de moi de l'idée de critiquer le journaliste de reportage ou de reporter de guerre. D'ailleurs, je salue l'action de RSF sur ces questions-là. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut avoir du journaliste de reportage et avoir une chaîne de débat. Par ailleurs, il y aura une grogne du public contre les médias en général. Et j'ai l'impression quand même le combat de RSF, ce qui me gêne un peu, est centré contre une seule chaîne. Alors qu'on va sans doute parler de l'étude qu'on a faite sur le Figaro. D'autres études démontrent qu'il peut y avoir des billets sur d'autres chaînes. Donc, j'en reviens à mon idée de panique médiatique. Il y a un nouvel acteur qui, apparemment, pose principalement problème et pose plus de problèmes aux autres acteurs médiatiques, à mon sens, qu'au public. Parce que le public, soit il n'aime pas CNews et il zappe, soit il y va et CNews a des audiences qui ne cessent d'augmenter.
J'aimerais relativer un tout petit chose, Alexandre Devecchio, quand vous dites nouvel acteur. Il s'agit quand même de Vincent Bolloré. On peut pas non plus... Je sais que vous avez rappelé votre date de naissance, mais enfin bon... C'est pas un tout jeune arrivé dans le milieu de l'audiovisuel, Vincent Bolloré. Hein.
Non, mais CNews est une chaîne relativement récente. En tout cas, on voit bien qu'il y a une focalisation sur la chaîne de CNews. C'est quand même pas moi qui l'ai inventée.
Mais peut-être que ça serait intéressant de Nathalie revenir Salak. Justement à l'origine de la création de CNews. C'est extrêmement intéressant de voir que vous dites ça fait une quinzaine d'années. Mais en vrai, la bascule, me semble-t-il, c'est 2015, 2016,
j'ai
2017.
Même pas dit une quinzaine d'années, j'ai dit que c'était récent.
D'accord.
Donc, parce qu'il y a effectivement eu iTélé avant CNews.
Voilà,
une ligne éditoriale différente.
Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur, en tout cas, l'audiovisuel, sur la TNT, l'arrivée de chaînes d'information en continu, elles arrivent en même temps. Donc vous avez LCI, qui était une chaîne d'information continue, qui était payante, avec un modèle économique payant, et qui en 2016 bascule en TNT gratuite, où était déjà présent BFM plus Itélé, et ensuite en 2016 arrive France Info TV, qui est la quatrième chaîne d'information. Ce qui fait qu'en l'espace de 2-3 ans, le paysage aussi uniquement des chaînes d'information en continu a changé. Et si on fait un tout petit peu d'économie, si vous me permettez ce petit détour une fois encore, je mets de côté France Info TV, puisque de toute manière son modèle économique c'est la redevance. Donc je regarde uniquement les trois chaînes de télévision d'information en continu. Lorsqu'elles signent une convention avec l'ARCOM, elles ont l'impossibilité de diffuser des films, des séries, de la télé-réalité, des émissions de jeux, etc. Le but du jeu, c'est uniquement se concentrer sur de l'information avec tous les 30 minutes un petit jingle JT spécial.
Ça, c'est une obligation qui est suivie sur CNews.
Mais ça, c'est une... Non, mais c'est pas ça. Attendez, laissez-moi juste... Mais justement, mais c'est exactement ça. Et donc, sur quoi, qu'est-ce qui fait basculer? C'est ce qui, dans la mesure où elles n'ont que de l'information sur laquelle elles doivent se battre et que dans le même temps, l'information, elle est accessible gratuitement, donc elle est vendue. Qu'est-ce qui est vendu aux annonceurs? Bah, la taille de l'audience. Donc, comment vont-elles se différencier? Et on voit très bien que depuis ces dernières années, et pour mon sens, c'est pas qu'il y a une panique, c'est que la panique est mise en scène pour que ça fasse de l'audience et que ça attire du téléspectateur et le chaland. La preuve, c'est que même les parlementaires s'en occupent. Donc, je trouve que c'est quand même extrêmement bien joué.
C'est la concurrence sur un même secteur de celui de l'information qui pousse à la polarisation.
Mais bien évidemment, pousse complètement, en tout cas, j'irai pas jusqu'à la polarisation, j'irai qui pousse à la différenciation. Et lorsque je regarde LCI.
Oui, mais vous avez raison, mais
Je regarde LCI, elle est allée vraiment cette chaîne sur finalement la guerre, le traitement aujourd'hui plus essentiellement de la guerre. Et de l'autre côté,
je parlais d'écologie, vous m'enlevez les mots de la bouche, pardon, je vous coupe, mais on aurait pu dire il y a une chaîne d'information qui traite à un moment donné a traité presque exclusivement de la chaîne de la guerre en Ukraine. Oui. C'était quand même son choix. Personne l'a, il me semble, l'a remis en cause. Et c'est plutôt bien que les téléspectateurs aient un choix.
Non, mais si du coup, ça permet de relativiser votre propos lorsque vous disiez il y a une panique du système médiatique de gauche parce que la droite arrive. Non, c'est quand même pas du tout ça. Là, c'est un petit mot en l'air.
Vous l'avez reconnu vous-même,
il y a trois chaînes avec trois sensibilités différentes. Il y en a une qui pose problème. Il y en a pas les. On ne parle pas des
autres. Alors, j'aimerais qu'on revienne juste.
C'est vrai que c'est intéressant. L'étude
en disant maintenant que le journaliste c'est de suivre. Pardon, j'ai rien contre BFM qui est une bonne chaîne, mais moi quand j'étais jeune étudiant en journaliste, pour le coup, BFM était vraiment la chaîne d'info qui cartonnait. Et moi, j'étais parfois atterré de voir quelqu'un faire le pied de grue avec son micro, être une heure à l'antenne pour faire trois fois le même commentaire, où on avait une image... Michael Schumacher, je me souviens de Michael Schumacher qui avait eu son accident, et ça avait duré trois jours sur Michael Schumacher avec quelqu'un devant l'hôpital qui ne nous apprenait pas grand-chose. C'est pas le modèle idéal.
J'aimerais qu'on revienne au pluralisme, parce que c'est quand même le sujet. On pourra parler après de faire une émission sur la pertinence des chaînes d'information continue et de remplir effectivement un vide quand on doit toutes les deux minutes essayer de proposer du contenu, mais c'est, je dirais, un autre sujet, et puis il y a qu'un impact moindre sur la démocratie et sur les conséquences que la question du pluralisme. En revenant sur cette question du pluralisme, Thibaut Brutin, et en reparlant justement de ces chaînes d'information continue, vous avez fait ce rapport comparatif en analysant une grande masse de données, notamment des bandeaux, avec plusieurs milliers justement de références. Ce document n'a pas été diffusé dans un reportage de complément d'enquête, du moins il y a eu une partie. Une graphique qui a été enlevée. Donc c'est ça qui a créé un peu de polémique, puisque ensuite l'ARCOM a expliqué dans le journal Le Point pourquoi il n'était pas tout à fait en adéquation par rapport aux conclusions que vous avez pu aboutir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce graphique n'a pas été diffusé donc dans le reportage de France 2, complément d'enquête, qui était consacré d'ailleurs à CNews?
Écoutez, nous on n'a pas très bien compris quel était l'argument de l'ARCOM. Ce qui est clair, c'est que l'ARCOM s'est beaucoup focalisé ces dernières années sur le temps de parole des hommes politiques. C'est justement ce que je disais tout à l'heure. Nous, d'ailleurs, on le regrette parce que ça amène à des systèmes un peu bizarres où on va faire 2 minutes de machin truc et 4 minutes de bidule pour pouvoir essayer de rééquilibrer les choses. C'est un peu absurde. Et je crois que ce qui est important, c'est de sanctionner les déséquilibres répétés, structurels, intentionnels. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que notre étude, elle porte sur les 4 volets. C'est une étude extrêmement ambitieuse. Je salue le travail qui a été fait par l'Institut Thomas More, l'Institut Hexagone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 études qui existent.
Il y en a peut-être une d'Hexagone aussi. aussi. Mais
il y en a une d'Hexagone, oui.
On parlera de Thomas Mann dans un instant.
Ouais. Il y a trois études qui existent. Nous, on a fait une étude sur les quatre chaînes d'information en continu. Donc, on a été vraiment dans la même méthodologie, le même regard qui est porté sur les quatre chaînes. Alors, la méthodologie est très transparente. Et nous avons été très étonnés, pour être honnête, que le régulateur, sans avoir été saisi, s'exprime dans le débat public et pas à armes égales, puisqu'il ne nous a pas sorti ces chiffres. Donc, nous maintenons que la délibération de juillet 2024 invite à avoir une appréciation du pluralisme qui est sur une période de un mois. J'ai lu dans le point que l'ARCOM pensait que c'était trois mois. C'est pas la lecture qu'on fait de cette délibération. Et par ailleurs, elle dit que le temps de la gauche est tout à fait suffisant. C'est nous, on a un graphique qui a été montré à l'antenne qui montre qu'il y a en prime time un déséquilibre très fort où vous avez l'extrême droite et la droite qui s'expriment majoritairement, très majoritairement. Et puis de l'autre côté, la nuit, la gauche qui est majoritairement diffusée.
Mais il est possible ce rattrapage nocturne. Est-ce qu'il reste dans les clous justement de règles de diffuser effectivement la gauche à 4h du matin?
Il y a une décision du Conseil d'État de janvier 2023 qui est assez claire là-dessus, qui porte d'ailleurs sur une période de 6 semaines, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir 3 mois, et qui dit qu'il est clair que l'obligation de pluralisme ne saurait être dévoyée. Évidemment, vous diffusez la nuit, vous la dévoyez. L'idée, c'est d'avoir un traitement égal. Et franchement, on n'a pas sorti le graphique avec les audiences pondérées. Ça ferait très, 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 très,
alors
très
pourquoi,
mal.
Pourquoi l'ARCOM qu'est-ce que l'ARCOM a contesté par rapport à ça, qui a obligé justement la rédaction de France 2, enfin du moins complément d'enquête, à retirer une
séquence ? L'ARCOM a dit que l'évaluation qu'il faisait du pluralisme politique était sur une période de 3 mois. Et nous, on dit que ce n'est pas le cas parce que nous, on se fonde sur la délibération de 2024. Mais tout ça est assez technique, au fond. Tout ça est un pare-feu. Et ce qui est regrettable, c'est les conséquences de tout cela. Alors, moi, je ne suis pas inquiet pour Reporters sans frontières, mais on approche du moment où la démonstration est faite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Non seulement on a vu, et je le regrette, l'audiovisuel public tanguer à ce moment-là. On a vu aussi les audiences, les antennes de CNews passer en quasi-breaking news là-dessus. On a eu 65 émissions de CNews qui mentionnent pour tout ou partie RSF. On est à plus de 70 000 messages hostiles. Alors vous me direz, c'est la monnaie de votre pièce. Oui et non. Moi, j'ai relu Les Illusions perdues ce week-end. On est en train de revenir aux journaux de Lousteau et Rubempré. Je veux dire, il y a une page dans Balzac qui est formidable, où il explique que si votre message est assez pernicieux, si vous avez une demi-vérité, vous la matraquez à longueur de journal, et à la fin, ça finira par affaiblir votre adversaire jusqu'à le faire trébucher et tomber. Voilà, moi, je trouve que le journalisme, surtout quand on est, et permettez-moi cette expression, dans un moment où il y a une chaîne qui est hors de contrôle, dans tous les sens du terme, vous arrivez à grandes enjambées, non pas vers le 21e, mais vers le 19e siècle.
Maman, il y a un truc qui déconne avec mon émission préférée, il n'y a que des parasites.
France Culture.
Tu veux dire à la radio ?
Oui, National Public Radio, où il y a plein de gauchistes qui se plaignent pour tout et n'importe quoi.
La fabrique de l'information.
Comment ça, le président a interdit NPR ? C'est le truc le plus marrant du monde !
François Celtiel.
NPR, donc c'est un extrait de South Park par rapport au contexte américain, pour prendre un peu de distance et de hauteur, car nous parlons du pluralisme de l'audiovisuel public aujourd'hui en compagnie de Nathalie Sonnac, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Panthéon-Assas, avec Thibaut Brutin, qui est le directeur général de Reporters sans frontières, et avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef des pages Débat-Idé du Figaro et du Figaro Magazine. Justement, le Figaro Magazine, on y reste. Vous avez publié il y a très peu de temps ce rapport Thomas More, qui est un autre rapport qui essaye d'analyser ou du moins de quantifier, alors ici c'est en utilisant l'intelligence artificielle, les manquements de pluralisme ou pas, donc du moins ce rapport lui était uniquement consacré sur les antennes radio du service public, donc France Culture, France Info et France Inter, je crois que c'était les trois, et donc la méthodologie tentait d'analyser le contenu même en fait des propos des personnes invitées pour voir s'ils étaient plutôt de gauche ou de droite, mais on a pu voir dans ce rapport que j'ai lu avec attention puisqu'il nous concerne aussi, que par exemple la météo était perçue comme de gauche. Alors est-ce que ce rapport vous paraît totalement clair, Alexandre Devecchio ?
Alors, il faut tout dire dans ces cas-là. D'ailleurs, le rapport était assez clair parce que je crois qu'il disait qu'il y a 83% de la météo était effectivement de la météo, si vous voulez. Le pourcentage restant, qui est quand même très faible, était sur toutes les questions qui portaient au climat, où l'intelligence artificielle pouvait estimer qu'il y avait un vocabulaire autour de la décroissance, autour de ce qu'il fallait faire par rapport à la question du climat, qui pouvait être qualifié de gauche. On peut prendre ce point-là, ça ne remet peut-être pas en cause l'intégralité, si vous voulez, de l'étude. Et je rappelle quand même que sur la météo, il précisait que 80 83% de la météo sur les antennes de France Télévisions était de la météo.
Voilà. C'est ce qui est quand même rassurant.
C'était un flash de...
Non, mais ce que je veux dire par là, je suis d'accord avec vous que c'est un exemple caricatural, mais c'en est un quand même.
On sait bien que toute méthodologie est imparfaite et on pourrait faire la méthodologie de RSF. La vérité, c'est que tout de même sur France Télé, puisque sur Radio France, particulièrement sur France Inter, puisque c'est plutôt l'étude visait plutôt le manque de pluralisme chez France Inter. Moi, je suis plutôt de sensibilité de droite. Il est vrai que parfois, je ne me sens pas bien représenté par le service public. Et on a des lecteurs. Moi aussi, je suis au contact de plein de lecteurs, enfin de gens. Et c'est quelque chose qui revient. Quand on fait, je peux vous dire que quand on fait un article au Figaro sur le service public, particulièrement sur France Inter, on a des courriers pour nous dire bravo. Donc,
d'ailleurs, si vous voulez, sur le Figaro, vous avez beaucoup traité la question du service public aussi.
Donc, exactement. Voilà. La question de la régulation, à mon avis, peut se poser de manière plus légitime, puisque le service public est un bien commun, un bien collectif, et il doit représenter toute la nation. Il ne faudra pas que ça devienne simplement une caste qui s'approprie une partie de la démocratie.
Juste, puisque effectivement, c'est toujours compliqué, cette question-là, de distinguer la perception de l'objectivation, etc., de l'objectif. Donc là, on peut chacun avoir une perception. Là, vous avez publié ce rapport-là qui a une prétention de le rendre, d'avoir une analyse objective de la situation. On a été dans l'intelligence
artificielle. On a essayé d'objectiver la perception.
Avec un rapport à 100% utilisé par l'IA, qui peut-être ne faisait pas toujours la distinction entre ce qu'était un programme d'humour, ce qu'était un programme sérieux. Mais tiens, je vais vous proposer d'écouter un peu d'Alexandre Vecchio. On va écouter Europe 1.
Ce qui montre que c'est très dur de faire la police, parce que l'humour, vous la mettez où ? Si les humoristes, et c'est le cas sur France Inter, vous me tendez une perche, mais il faut que 90% de leurs sketchs sur la droite. Est-ce que ça ne devient pas un peu de la politique aussi ? Et est-ce que vraiment il faut on a les moyens de le réguler ?
Bien sûr, mais je crois que c'est
tombé dans une forme de police de la pensée.
Mais c'est important de distinguer ce qui est quand même une tranche d'information faite par une rédaction. Et il y a beaucoup de journalistes qui travaillent ici sur les antennes de Radio France avec des chroniques humoristiques. Je vous propose d'écouter Europe 1 sur France Culture avec l'un des représentants de Thomas More, de l'Institut Thomas More, je crois même que c'est lui qui le dirige, qui va revenir sur les conclusions de sa propre enquête.
Qu'est-ce que ça vaut concrètement la fiabilité de l'IA ? Parce qu'on sait qu'elle est elle-même biaisée. Il y a eu plein d'études qui montraient qu'il y avait quand même des biais cognitifs dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Elle mange le web et forcément elle en fait une synthèse. Ses opinions elles-mêmes sont influencées. Je vous dis ça parce qu'il y a un petit détail qui m'a un peu turlupiné. Je vois que sur France Inter, vous jugez que même la météo est de gauche. Je trouve ça plutôt drôle.
Oui, alors ça c'est peut-être une coquetterie, si je puis dire, de l'IA. Évidemment, il y a un biais, si vous voulez, IA, qui est effectivement assez analysé, mais qui est plutôt un biais centre-gauche, globalement, hein, dans les études, quand on les voit. Donc on peut quand même considérer que, d'une certaine manière, ce que nous disons est en fait validé par le biais même idéologique de l'outil.
Alors Nathalie Sonnac, on voit qu'il y a des rapports qui sont publiés. Donc Thomas More, qui est un institut libéral conservateur, on peut le dire comme Alexandre Devecchio et Reporters sans frontières. Néanmoins, il n'y a que l'ARCOM qui a l'autorité. Tout cela revient dans les mains de l'ARCOM qui est en mesure de pouvoir statuer sur les manques ou non de pluralisme.
Alors effectivement, ça revient dans les mains de l'ARCOM avec quand même une loi de 1986 qui demande bien à faire le distinguo et il y a un distinguo très fort entre les chaînes du service public et celle du privé sur la notion d'impartialité. Et c'est parce qu'il revient qu'au service public d'assurer cette mission d'impartialité que de fait, aujourd'hui, l'ARCOM, si je ne m'abuse, lance une étude sur ce sujet bien particulier. Après, moi, je suis quand même inquiète de façon générale parce que ce qui est en train de se passer ou le débat qu'on peut avoir ici, plus ou moins amical, plus ou moins drôle, 83% de l'humour. Mais qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui et qui est traité notamment par CNews, ou en tout cas que CNews met sur la table. C'est quand même l'avenir du service public. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il est impératif, véritablement, de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est une question qui est nationale, évidemment, parce que le service public, ça a une mission d'intérêt général, avec des missions qui sont celles de faire plus d'informations que les autres. Toutes les chaînes de France Télévisions assurent 80 heures par jour d'informations. Ensuite, parce qu'elle traite des territoires, ou elle traite de départements, d'outre-mer, de territoires de façon générale, sur lesquels les autres chaînes ne reviennent pas tout simplement, une fois encore, parce que leur modèle économique ferait qu'il n'y aura pas suffisamment d'audience, et donc ce sujet-là, ces sujets-là, ces traitements d'actualité-là ne seraient pas là. Il en est de même pour de la culture, il en est de même pour l'association. Il y a un autre élément qui me semble essentiel, c'est que dans l'espace public où on a des chaînes d'information qui sont privées et d'autres qui sont des chaînes gratuites, cet équilibre-là, il est revendiqué par l'Europe. Et aujourd'hui, on a le European Media Freedom Act qui vient d'être mis en place en août 2025 et qui dit combien il est indispensable d'avoir un audiovisuel public dans un espace médiatique et que cet audiovisuel public il soit fort et qu'il soit aussi fort que l'audiovisuel privé. Il me semble que la question politique est évidemment centrale, que les enjeux et les débats d'opinion doivent avoir lieu, mais pas de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on parvienne, que nos politiques, par vous en particulier, pas moi spécialement non plus, parviennent absolument de façon, mais vraiment irrémédiable, de prendre de la hauteur. Mmh. Il en va de quoi ? De nos démocraties. Pourquoi on discute de ça et pourquoi c'est si important et pourquoi vous avez la gentillesse de... Et je trouve fondamental que vous posiez cette question-là. Parce que les médias, aujourd'hui, demeurent des vecteurs de démocratie. Et que même si les réseaux sociaux sont largement présents, si l'intelligence artificielle pose de grandes questions, de larges questions en matière de remise en cause de la démocratie, il s'avère qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision ont encore ce pouvoir d'être finalement le lieu où encore les Français viennent s'interroger. Et donc, les polémiques, les politiques sont importantes, et les Français ont l'habitude de ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça va trop loin.
D'ailleurs, Charles Alloncle, hein, qui est le porte-parole de cette commission, le dit, elle devra avant tout répondre à cette question fondamentale. Quelle est la raison d'être de l'audiovisuel public ? Là, vous venez à l'instant d'en mentionner quelques raisons. On pourrait comprendre que le sous-texte de cette question, c'est aussi, est-ce que le service public sert encore à quelque chose ? Puisqu'on rappelle que là, Charles Alloncle appartient au parti de l'UDR, donc très proche aussi de l'extrême droite, qui a pour programme de privatiser le service public. Mais puisque vous avez évoqué la prise de hauteur nécessaire, Nathalie Sonnac, je vous propose d'aller voir Mélanie Chenoir de Courrier International, qui va prendre de la hauteur et de la distance pour nous expliquer que cette question des menaces du service public, enfin qui pèsent sur le service public, n'est pas uniquement un contexte français, mais touche beaucoup de pays voisins, Mélanie.
Oui, absolument. En changeant d'échelle, on s'aperçoit que plusieurs autres pays traversent des crises comparables, avec deux grands axes qui reviennent. Donc, en premier lieu, des médias publics accusés par la droite et l'extrême droite de véhiculer des informations orientées, voire biaisées, ce qui nourrit ensuite des critiques sur leur financement par l'État et une remise en question de leur existence. Alors, l'exemple le plus retentissant, on le trouve au Royaume-Uni. La BBC, institution à la renommée internationale, traverse une crise sans précédent. Donc, petit rappel des faits. Le 9 novembre, le mois dernier, tremblement de terre pour le diffuseur britannique avec la démission de son directeur général et de sa directrice de la rédaction. En cause, les révélations embarrassantes du Daily Telegraph, quotidien conservateur, sur leur traitement de l'actualité internationale. Le journal a mis la main sur un mémo rédigé par un ex-conseiller en déontologie de la BBC qui pointe du doigt en particulier deux manquements. D'abord, un montage jugé trompeur d'un discours de Donald Trump. Dans un documentaire diffusé une semaine avant l'élection présidentielle de novembre 2004, ce montage laissait penser que Donald Trump avait directement encouragé les émeutes du Capitole 3 ans plus tôt. En accolant deux phrases prononcées à plusieurs dizaines de minutes d'écart, le média britannique est accusé donc d'avoir fait un raccourci biaisé. Et l'autre élément dénoncé par ce rapport, c'est un traitement jugé orienté de l'actualité dans la bande de Gaza. En particulier sur BBC Arabique, la version en langue arabe de la chaîne britannique aurait édulcoré des faits imputés au Hezbollah et au Hamas et invité, je cite, 244 fois en 18 mois, un journaliste qui a tenu des propos antisémites en ligne. Donc cette affaire place la BBC dans une situation très périlleuse. Depuis, Trump a menacé d'attaquer le diffuseur britannique en justice et au Royaume-Uni, toute la presse conservatrice s'en donne à cœur joie.
Oui, on voit que cette polémique à la BBC a de lourdes conséquences outre-Manche. Est-ce qu'il y a d'autres turbulences du même genre ailleurs en Europe ?
Alors, pas exactement de la même ampleur parce que la crise à la BBC est assez singulière avec ses questionnements éditoriaux de fond. Mais il y a tout de même des éléments qui entrent assez fortement en résonance. On peut le voir par exemple en comparant deux unes de journaux à la ressemblance troublante, parues exactement le même jour, le 15 novembre. D'abord celle du Spectator, hebdomadaire conservateur britannique, qui se demande « peut-on réparer la BBC ?» et comme en écho, le magazine allemand Der Spiegel qui pose la question « peut-on encore les sauver ?» à propos de l'ARD et de la ZDF, les deux chaînes publiques allemandes. Donc le fait que ces deux unes paraissent simultanément dans deux pays différents, c'est bien le signe que la remise en question de l'audiovisuel public est un sujet brûlant en Europe.
Il y a l'Allemagne aussi, hein.
Oui, en Allemagne, donc il n'y a pas de révélation sur la ligne éditoriale des grandes chaînes publiques, mais par contre, il y a des menaces quand même qui pèsent sur elles. Très récemment, il y a eu un tournant assez majeur chez nos voisins allemands. Une citoyenne bavaroise a demandé à être exemptée de la redevance audiovisuelle, qui a été supprimée en France, mais qui existe toujours outre-Rhin, parce qu'elle jugeait que le traitement médiatique de l'ARD et de la ZDF était déséquilibré et ne respectait pas sa mission de service public, consistant à présenter une diversité de points de vue, donc le pluralisme dont on a parlé. Pour la toute première fois, la justice n'a pas rejeté sa plainte et le tribunal fédéral a estimé qu'elle était légitime. Donc jusqu'à présent, seules les autorités de régulation de l'audiovisuel, l'équivalent allemand de l'ARCOM, étaient habilitées à sanctionner les chaînes. Désormais, la justice se considère compétente pour déterminer si elles respectent ou non leurs obligations. C'est loin d'être anodin parce que ça crée un précédent. Donc les Allemands mécontents de la couverture de l'actualité pourront désormais demander à ne plus financer les médias publics et éventuellement avoir gain de cause si des manquements à leur mission de pluralisme sont effectivement constatés. Et donc ça, c'est le signe que le ton se durcit chez nos voisins allemands. Et ça inquiète Le Spiegel qui écrit... En ces temps de populisme et de fake news, l'ARD et la ZDF sont plus que jamais nécessaires. Et donc le magazine allemand déplore, je cite, « Ces diffuseurs sont jugés coûteux, peu réactifs et moralisateurs. Au lieu de mettre en œuvre des réformes attendues depuis longtemps, leurs directeurs se cramponnent à un système de redevances controversé. » Donc se réinventer ou couler, et chez certains de nos voisins, c'est plutôt vers la deuxième option qu'on semble se diriger. Là, il y a 10 jours, la Société suisse de radiodiffusion et télévision a annoncé la suppression de 900 postes d'ici à 2029. Et parmi les raisons évoquées, il y a la disparition progressive de la redevance audiovisuelle décidée par le Conseil fédéral.
Merci beaucoup Mélanie. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la perception de la presse étrangère de notre situation française. Mais Thibault Brutin, peut-être tout de suite une réaction en tant que reporter sans frontières. La situation à l'international, évidemment, vous y faites très attention et cela vous inspire des inquiétudes?
Oui, alors je vais pas faire la critique de votre émission, mais c'est vrai que ça fait 50 minutes qu'on parle de la situation française. Et ce débat, il n'a pas à être franco-français. En fait, c'est un débat qui est largement européen. Moi, par exemple, je suis citoyen suisse, par ailleurs, et le référendum qui a eu lieu une première fois sur pour ou contre la redevance, alors ça a permis de clarifier les choses. Oui, les Suisses sont pour la redevance. Là, il revient de façon plus pernicieuse le débat sur le montant de la redevance. Et là, on voit bien que ça va être beaucoup plus serré, parce que je pense que beaucoup de gens ont plutôt envie de payer un peu moins. Mais oui, c'est un mouvement européen, et je pense qu'il faut prendre garde à l'instrumentalisation de ces polémiques. Pour moi, il est clair que l'audiovisuel public n'a pas à être exempt de critiques en aucune manière, d'autant plus qu'il appartient à la communauté citoyenne. Donc il faut être, je dirais, clair, froid, impitoyable, peut-être même, avec l'audiovisuel public. Mais de grâce, regardons la paille et la poutre. C'est là où je trouve que quand même, en termes de si vous me permettez ça, de poutre aux yeux, Donald Trump qui vient donner des leçons de véracité à la BBC, c'est quand même assez risible. Et on a la même chose avec Pascal Praud, qui est assis confortablement dans son fauteuil, qui nous fait des leçons d'enquête à complément d'enquête. C'est là où je pense qu'il est très important aujourd'hui de comprendre ce qui est en jeu. Il en va en fait d'une question qui est assez fondamentale, qui est celle de notre capacité à avoir accès à une information qui est riche, qui est forte, qui est fiable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce que les critiques qui sont formulées sur l'audiovisuel public dans tous les pays européens, dans une grande majorité de pays européens, sont assez sans rapport avec les besoins réels de réforme. Il ne faut pas nier qu'ils existent.
Oui, ben c'est pour ça qu'on a voulu offrir une dimension internationale parce qu'on voit que ce sujet nous dépasse largement. Et merci d'ailleurs à la rédaction de Courrier de le faire.
Un mot sur la BBC parce que c'est intéressant. Monsieur dit... Trump n'a pas de leçon à donner à la BBC, peut-être. On est en droit de ne pas aimer du tout ce que fait Donald Trump. Le problème de la BBC, c'est qu'ils ont monté un reportage truqué. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas reprocher à CNews. Pour l'instant, ce qu'on reproche par exemple à RSF à CNews, c'est que CNews aborde trop les mêmes sujets, de manière trop répétitive, de manière peut-être trop manichéenne à leur goût. Mais en tout cas, il n'y a pas de manipulation de l'information. Là, la BBC...
Il y a eu une condamnation, Alexandre Devieco, récemment pour CNews, pour... des informations climatiques de 20 000 euros.
Pas pour avoir truqué volontairement un reportage. D'ailleurs, il y a eu des conséquences graves à la BBC, puisque la patronne de la BBC avait démissionné. Parenthèse refermée. Et j'ajouterais juste que moi, je suis tout à fait pour le modèle suisse. Je trouve que c'est une vraie démocratie. Ils demandent leur, leur avis aux gens. Et je pense qu'il y aura peut-être un débat pendant l'élection présidentielle sur ce que veulent, ce qu'attendent les Français du service public. Est-ce que les financements sont trop importants? Est-ce qu'on a besoin d'autant de chaînes? Est-ce qu'il en faut moins? Est-ce qu'il faut qu'ils se ressentent sur certaines missions? Il me semble que moi, on peut être attaché au service public, j'y suis plutôt, mais il n'y a pas un droit divin du service public. On est en démocratie. Non, c'est pour répondre à ma question. Non, mais on est en démocratie et il y a peut-être des personnes qui pensent qu'on pourrait se passer de service public dans ce pays. Et moi, je pense que si
vous
on
êtes favorable à la privatisation, vous, à titre personnel.
Non, pas entièrement, en tout cas. Mais je m'interroge, est-ce qu'il y a besoin d'autant de chaînes? France Culture, par exemple, fait partie des chaînes qui remplissent une mission particulière que les autres.
Sinon, le signal allait s'interrompre instantanément. Ça aurait été dommage de répéter au bout de deux phrases.
C'est pas pour failloter, mais pour le coup, c'est une mission que les autres chaînes ne remplissent pas, si vous voulez. France Musique, par exemple, je crois que personne ne remet en cause. Voilà, vous avez parlé des territoires ultramarins, etc. Je pense que personne ne veut fermer RFI, personne ne veut. Voilà, donc.
RFI n'appartient pas à le
quand vous dites personne, vous n'en savez rien, parce que vous n'avez pas non plus.
Non, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui ne se pose pas dans le débat politique France 24. Mais donc ça peut se poser dans une démocratie. Enfin, je veux dire, il ne doit pas y avoir de tabou.
D'ailleurs, je rappelle que Alexandre Devecchio, que vous animez une émission sur LCP, hein, oui, la chaîne parlementaire qui s'appelle Controverse, une émission mensuelle.
Mensuelle.
Non. Mais au contraire, c'était juste pour flatter ce pluralisme qui vous honore et qui vous permet de vous exprimer une fois par mois avec votre propre émission. Nathalie Sonnac, quand on voit justement les baromètres sur la question du service public, parce que ça sera sans doute un sujet qui viendra, on voit qu'il y a quand même plutôt une confiance des Français envers le service public. C'est-à-dire qu'ils y sont attachés au service public de l'audiovisuel des Français.
Oui, c'est ça qui est intéressant. On a, parmi toutes les chaînes de télévision, celle du service public arrive en pole position en part d'audience. Alors, il s'avère qu'elles n'évaluent pas leur part d'audience et elles ne le vendent pas aux annonceurs, mais c'est 28% de part d'audience. Donc, ils répondent favorablement. La matinale de France Inter, c'est près de 7 millions de téléspectateurs. Le JT, c'est 4 millions. Donc, on voit bien que les individus, les citoyens, sont relativement heureux de la présence de leur service public. Alors après, je vous rejoins sur le point qu'il faille toujours améliorer, qu'on puisse discuter, qu'on puisse challenger. En revanche, sur l'élément théorique en amont, de considérer que est-ce que l'on peut privatiser l'audiovisuel public, pour ma part, j'y suis totalement contre. Je suis pour véritablement le fait qu'il y ait un équilibre des forces et que le service public va là, et vous l'avez mentionné pour France Culture, en faillotant un petit peu quand même, vous l'avez mentionné pour LCP, en faillotant encore un petit peu, finalement vous faillotez beaucoup. Non mais outre la plaisanterie, pour France Musique, on voit bien que finalement chacune de ces antennes occupe des espaces en matière de programmation que le service privé, de façon systématique, ne pourrait pas tout simplement...
Mais tout simplement aussi d'avoir un espace qui ne soit pas uniquement lié à la rentabilité.
Exactement,
un espace publicitaire.
C'est ça
la grande force du service
finalement,
public.
C'est la force et en même temps c'est la mission. C'est ça qu'il y a derrière l'intérêt général, c'est-à-dire de traiter des thématiques, d'aller sur des territoires, d'avoir des problématiques culturelles, d'associations, voire politiques, qui finalement ne puissent pas être embrassées par le service privé. D'où l'importance essentielle, voire existentielle, de sa place dans un espace public, aux côtés d'un espace privé fort, mais certainement pas sans lui.
Thibaut Brutin, peut-être un dernier mot, puisqu'on s'approche de la fin de cette émission sur cette antenne de France Culture.
Moi, je suis persuadé que la querelle que nous vivons actuellement, parce qu'il faut l'appeler comme ça, la querelle du pluralisme, c'est une des querelles les plus fondamentales de notre débat démocratique. Je suis inquiet sur son issue, mais je suis heureux qu'on l'ait, parce que c'est un choix de société, un choix démocratique qu'il faut assumer. Et je crois qu'il est urgent aujourd'hui de garder la capacité à avoir des espaces de dialogue qui soient pluralistes, qui soient ouverts, d'avoir accès à une information de qualité qui soit pas juste du plateau, mais aussi du reportage. Et moi, je suis très solidaire de tous ces journalistes qui sont des journalistes de terrain et qui pâtissent dans l'opinion publique de certaines dérives médiatiques.
C'est-à-dire, vous pensez à qui pâtisse de...
Je pense que quand les citoyens s'expriment, parfois avec une très forte haine contre les médias, je crois qu'ils ne pensent pas nécessairement à mal quand il s'agit des journalistes de terrain, des journalistes d'investigation, des reporters de guerre. C'est eux qui font l'information au quotidien, ces caméramans, ces photographes, ces reporters qui sont, l'honneur à bien des égards de la profession.
Bien sûr, mais c'est pas les plus visés par les critiques, hein, je pense.
Oui, absolument.
Ce sont plutôt les éditorialistes,
c'est ce que je disais.
Et j'en prends ma part.
Alors, puisque vous parlez justement d'éditorialistes, je vous renvoie à l'émission de la Fabrique de l'Information consacrée au métier d'éditorialiste, Alexandre Devecchio. Je sais que vous écoutez bien France Culture, vous pourrez réécouter cette émission en podcast où nous avons largement abordé la différence et fait de la pédagogie dans ce genre journalistique. Merci à vous tous de m'avoir accompagné dans cette émission. Nathalie Sonnac, Thibaut Brutin, Alexandre Devecchio et la rédaction de Courrier International avec Mélanie Chenoir. Je remercie à la réalisation Sorge Leroy, à la vidéo c'était Ruben Karmazic et à la préparation c'était bien sûr Joséphine Reinhardt.